Bonjour et bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission consacrée à la cuisine, à l'alimentation, à la table comme fait culturel majeur et comme enjeu global. Une émission qui jusqu'à 12h30 vous propose un plat du jour, une madeleine et une cerise sur le gâteau. Cher Pierre Hivernat, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous dirigez la plateforme des cultures du goût Alimentation Générale qui est notre partenaire. Et chaque dimanche en fin d'émission, aux alentours de 12h25, vous nous proposez la chronique La cerise sur le gâteau. Quelle cerise aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'un chef quelque peu perdu, quelque part en Wallonie.
En Wallonie. Alors à tout à l'heure, Pierre. Bonjour Natacha Triou.
Bonjour Caroline.
Vous nous proposez, vous, la Madeleine II, c'est-à-dire le souvenir gustatif d'une personnalité. Qui donc avez-vous rencontré cette semaine ?
Cette semaine, c'est la chanteuse Zazou, Brigitte Fontaine.
Et pour notre plat du jour, nous allons parler d'un légume qui a le goût du printemps et des jours qui rallongent. Alors petite devinette, c'est un légume au féminin dont les Français raffolent. On la trouve de mi-mars à fin juin. Elle est gorgée d'eau et de fibres, riche en protéines et en vitamines mais peu caloriques. On en trouve des blanches, des vertes et des violettes. Les Landes sont les plus gros producteurs français, mais aujourd'hui, elles sont concurrencées par la Chine et plus surprenant, par le Pérou. Notre légume du jour, c'est l'asperge.
Asperge, asperge, ou la grande asperge. Voilà ce que Louise a entendu toute son enfance. Ah, son enfance. À cette époque, Louise aurait tout donné pour naître avec un autre nom. Mais aujourd'hui, elle n'en changerait pour rien au monde.
Et pour parler de l'asperge, nous sommes avec deux producteurs d'asperges. Depuis les Landes, Christophe Payouk, bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes le président de la coopérative Copadax, qui regroupe 35 producteurs des Landes. Et il faut dire que Copadax est la première coopérative française de production d'asperges. En l'occurrence, vous, Christophe Payouk, je crois que vous possédez 40 hectares d'asperges, c'est-à-dire 300 tonnes.
Oui, c'est la production de cette année là qui va arriver à son terme d'ici quelques jours. 40 hectares qui vont produire un peu plus de 300 tonnes cette année.
Et vous faites de l'asperge blanche et de l'asperge violette, et on va bien sûr revenir sur ces couleurs de l'asperge. Depuis les Bouches-du-Rhône, plus précisément à Sénas dans les Alpilles, Sylvain Erhardt est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Du domaine de Roquehaute. Alors vous, Sylvain Erhardt, vous cultivez de l'asperge verte uniquement, bien sûr, vous nous expliquerez pourquoi, et vous vendez à près de 80 chefs étoilés qui attendent chaque année votre production d'asperges d'excellence. Et avec nous, en plateau, ici à Paris, un chef amateur d'asperges, Pierre Saugrin, bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes cuisinier d'un des plus vieux bistrots de Paris, la Fontaine de Mars, et vous allez nous donner vos recettes et vos astuces pour cuisiner et pour déguster l'asperge.
Alors
je dois vous remercier tous les trois d'être avec nous par téléphone, Sylvain Erhardt et Christophe Payouk, et ici avec nous Pierre Saugrin, parce que si je ne m'abuse, on est en pleine saison de l'asperge, hein, de mi-mars à fin juin, et c'est du boulot pour vous les producteurs. Donc merci beaucoup d'avoir quitté vos cultures pour cette demi-heure et de nous accompagner pour nous présenter l'asperge. Alors Christophe Payouk, par exemple, je sais que cette année, il a fait chaud dans les Landes, donc vous avez commencé en plus un peu plus tôt que d'habitude, je crois. Peut-être même trop tôt, parce que les consommateurs n'étaient pas prêts.
Tout à fait. Dans les Landes du Sud-Ouest, on a eu des conditions climatiques très douces dès la sortie de l'hiver. Des températures déjà au-delà de 20 degrés à partir du mois de février. Et les toutes premières asperges sont arrivées même en février, avec 3 semaines d'avance. Et après, le mois de la pleine saison a été plutôt sur la deuxième quinzaine de mars cette année. Alors que d'habitude, les années normales, c'est plutôt sur le mois d'avril. Et les consommateurs, certes, veulent de l'asperge assez tôt en saison. Souvent, les prix sont assez chers. Ça correspond aussi à une période où le consommateur demande de l'asperge pour Pâques. Et Pâques était un petit peu tard cette année, après le 20 avril. Ce qui fait que, en fait, les asperges sont arrivées en quantité presque un peu trop tôt. Et voilà, ça nous a mis une saison encore un peu particulière pour l'asperge, comme pour tous les ans. Tous les ans, l'asperge c'est différent. On est tributaire des conditions climatiques et cette année est encore une année un peu atypique.
Sylvain Erhardt, comment ça s'est passé chez vous dans les Alpilles ?
Ça s'est passé à peu près pareil que dans les Landes. Un mois de février très chaud, une production relativement précoce et puis après un mois d'avril en dents de scie, des jours très chauds, des jours beaucoup plus froid, avec une production qui a été très variable d'un jour sur l'autre, avec en plus notre Mistral qui n'a pas rangé les choses, surtout pour la production de l'asperge verte.
Pierre Saugrin, vous vous êtes mis à cuisiner l'asperge déjà depuis deux mois là ?
Oui, un petit peu plus tôt, oui. Mais moi, en fin de compte, moi, le client était très content. Hein. Il était très content d'avoir l'arrivée des asperges un petit peu plus tôt que d'habitude. Hein.
Parce qu'ils attendent l'asperge,
ils attendent
clients.
L'asperge, mais c'est un produit qui est extraordinaire. Ça dure pas longtemps, mais c'est un produit qui est extraordinaire. Moi, je travaillais essentiellement l'asperge blanche. C'est des quantités incroyables. Et quand on a de la belle asperge comme on a eu en début avec les landes et tout ça, il y a un plaisir chez les gens parce que ça voilà, le printemps arrive. Voilà, c'est un peu le début quoi.
C'est ça, c'est le signe de l'arrivée des beaux jours. Quoi.
L'arrivée des beaux jours, voilà, c'est ça effectivement ce que disait monsieur Pâques et tout ça, voilà, c'est festif. L'asperge, c'est un produit festif hein.
Christophe Payog, vous dans les landes, vous diriez que c'est un produit festif aussi quand les asperges arrivent, tout le monde est en joie autour de vous parmi les producteurs des landes.
Mais c'est vrai que l'asperge quand même fait partie des légumes dans les rayons qui sont quand même les plus chers au kilo. Malheureusement, peut-être tout le monde ne peut pas s'acheter de l'asperge. Et c'est vrai qu'on demande à ce produit-là d'être excellent à la fois dans sa présentation et dans sa tenue. C'est aussi pour ça souvent que c'est consommé plutôt le week-end et les périodes de fête. Après, pour Pâques bien sûr, mais après sur le mois de mai aussi. Pour les différents jours fériés, que ce soit 1er mai, 8 mai, Pâques, enfin Ascension, Pentecôte, et ainsi de suite. Quoi.
Est-ce qu'on en trouve partout ? Là, je vous ai tous les deux au téléphone, Sylvain Erhard dans les Alpilles, hein, donc depuis les Bouches-du-Rhône, et puis Christophe Payog dans les Landes. Il se trouve que l'asperge des Landes, c'est l'endroit où on produit le plus d'asperges en France. Vous allez nous dire pourquoi déjà, peut-être, Christophe Payog ?
Oui, alors en fait, on bénéficie dans les Landes de conditions pédoclimatiques idéales quasiment en Europe même, à savoir qu'on a un hiver qui est relativement doux, qui est jamais très très froid, un printemps qui est précoce, à la fois avec un sol sablonneux justement qui se réchauffe très vite avec les premiers rayons du printemps, qui fait que l'asperge pousse très droite et rapidement dès les premiers rayons du soleil. C'est pour ça qu'il y a une précocité, je dirais, naturelle sur les Landes par rapport à d'autres régions de France et même en Europe. Souvent, les premières asperges qui arrivent en Europe, souvent, c'est des asperges, avec des asperges du sud-est, bien sûr, mais c'est souvent les asperges des Landes.
Sylvain Erhard, elles aiment le sol sablonneux, les asperges. Vous avez un sol sablonneux chez vous ?
Alors nous, contrairement aux asperges des Landes, nous avons un sol qui est beaucoup plus limoneux. Nous sommes dans la basse vallée de la Durance. Et l'asperge verte n'a pas besoin d'un sol très sableux comme l'asperge blanche, comme pour la production d'asperge blanche, étant donné qu'elle pousse à l'extérieur. Donc c'est la raison pour laquelle nous pouvons plutôt faire notre sol est plutôt adapté à faire de l'asperge verte, alors que de l'asperge blanche ça serait plus compliqué.
C'est la même plante, qu'elle soit blanche, verte ou violette. On dit même que c'est de la famille de ce que j'ai appris en travaillant cette émission, de l'ail et de l'oignon. C'est la même plante à chaque fois ?
Exactement la même plante, après ça va être notre façon de travailler qui va être différente et qui va permettre de produire de l'asperge ou blanche ou violette, verte, ça va être la façon de travailler.
Faites-nous le portrait, Sylvain Erhard, de l'asperge idéale ou de l'asperge d'excellence. Qu'est-ce qui fait une asperge d'excellence que vous travaillez, vous ? Je rappelle que vous faites la verte, vous.
Oui, complètement. Ça va être une asperge qui va être, je dirais, la visuellement la plus droite possible, avec une couleur verte sur la totalité de la longueur, à peu près entre 25 et 26 cm. Le calibre, bien sûr, le plus élevé, et avec une pointe qui est relativement bien fermée.
Ça, c'est très important. La pointe doit être bien fermée.
Ouais, pour le côté visuel, bien sûr. Pour le côté gustatif, ça change pas grand-chose si elle va avoir sa pointe qui va être légèrement ouverte. Mais il est vrai que sur le côté visuel, c'est plus joli. Bon, aujourd'hui, on est en train d'évoluer. Je pense que les critères visuels sont en train un peu de passer, entre guillemets, un peu de mode. On est plus sur une consommation qui va être une consommation d'un produit qui va être plus naturel. Et parfois même, je dirais que quand elles sont trop droites, j'ai eu certains chefs qui me disaient, elles sont tellement droites qu'elles paraissent moins naturelles, que si elles étaient un peu courbées ou voilà, elles ont subi les aléas qui peuvent être le vent chez nous qui est très contraignant. Et pour avoir une asperge bien droite, surtout en plein air.
Pierre Saugrin, vous les choisissez bien droites, vous, comme chef ?
Ça va dépendre de ce que je veux pratiquer avec. Alors moi, je vais utiliser le produit comme il arrive en fin de compte. Hein. Donc, on est dans un bistrot, donc j'ai pas, comme dit monsieur, je vais pas avoir besoin essentiellement de toujours un visuel. Après, je vais adapter un visuel avec le produit que j'ai.
Vous avez un seul producteur, vous, par exemple, d'asperges?
Non, j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs parce que pour moi, l'asperge faut que ce soit super frais, voilà, presque cueilli, quoi. Ça, c'est pour moi, c'est important, ça. Parce que ça a tendance à vite dessécher, il faut vraiment qu'il y ait encore de l'humidité dedans. Et pour la travailler, il faut qu'on la travaille tout de suite. Donc j'ai des producteurs un peu... j'ai commencé par les Landes, en ce moment je travaille avec l'asperge de Sologne, en blanche. Et après, oui, effectivement, je vais prendre l'asperge verte chez monsieur, là, c'est évident.
Christophe Payeux, quel est le portrait de votre asperge idéale? Vous, gros calibre, pas de fil?
Alors l'asperge idéale, c'est pas trop fine et c'est pas trop grosse pour le consommateur. Pas trop fines parce qu'effectivement, quand elles sont très fines, une fois qu'on les a épluchées, il ne reste pas grand-chose, je dirais. Et à la fois, pas trop grosses non plus, parce que c'est un peu moins recherché par le consommateur, alors qu'il peut y avoir des recettes spécifiques où on peut couper, par exemple, l'asperge sur la longueur, où on peut trouver quand même toute la saveur de l'asperge blanche ou violette des Landes. En fait, l'idéal pour l'asperge, c'est qu'elle soit vraiment fraîche. C'est surtout la fraîcheur du produit qui fait sa qualité, quoi, en fait.
Et puis, de toute façon, elle doit se cueillir et se consommer assez vite, puisque je crois qu'elle n'attend pas quand elle est fraîche. Alors vous, Christophe Payeux, vous faites de la blanche et de la violette, et on disait que c'était la même plante et que ça dépendait comment on la faisait. C'est une question de lumière, la violette, c'est qu'elle a pris un peu de soleil pour devenir violette?
Alors, pour l'asperge blanche et violette, il y a des conduites culturales qui sont un peu différentes de la verte, à savoir qu'au mois de janvier, avant que la végétation démarre, on fait ce qu'on appelle une butte de terre. On ramène du sable qu'il y a dans les intérants au-dessus de la plante, une trentaine de centimètres à peu près, et les asperges poussent dans ce sable, dans cette terre. C'est pour ça que quand elles poussent, elles sont parfaitement blanches avant de voir le premier rayon du soleil. Et dès que l'asperge pointe son nez au-dessus de la butte, il suffit de quelques heures de soleil pour qu'elle devienne violette, voire une journée ou deux, après elles sont violettes vertes, avec le bout de la pointe qui peut être vert. C'est les différences qu'il peut y avoir, sachant qu'au niveau gustatif, il n'y a pas de réelle différence, au moins entre les blanches et les violettes, ou une asperge qui est de top qualité, une fois qu'elles sont cuites, on ne voit pas forcément de différence au niveau gustatif. Je ne parle pas trop de la couleur.
Sylvain Hérard, vous faites donc seulement de la verte, pour quelle raison?
Pourquoi de la verte? Parce que déjà, dans mon environnement, sur mon territoire, c'est vraiment l'asperge verte qui est la plus adaptée. Et aussi parce que c'est une façon de produire qui est, je pense, c'est un avis personnel, qui est un peu plus technique que l'asperge blanche parce qu'elle réagit beaucoup plus rapidement au changement climatique. Donc c'est beaucoup plus complexe.
Et vous avez sélectionné deux variétés, la Grolim et la Tilim.
Voilà, complètement. Une Grolim sous abri, qui est une asperge qui est plutôt orientée sur des gros calibres. Et la Tilim en plein air qui, elle, va être une variété qui va rester fermée plus longtemps. Donc ça évite d'avoir trop de turions qui aient la pointe légèrement ouverte.
Pierre Sogrin, je vais vous demander un exercice impossible. Mmh. Je vais vous demander d'essayer de définir le goût de l'asperge. Mmh. Je ne sais pas, peut-être la verte, la blanche, la violette, c'est vous qui choisissez. Quel goût ça?
Moi, je vais en parler en premier de la blanche. Hein. La blanche ou violette, effectivement, tu as raison, ça, c'est juste une question de couleur. On va dire que c'est plus quelque chose de plus... c'est un goût particulier, c'est un goût plus suave, plus doux, l'asperge blanche. Et tendance à l'asperge verte qui va plus ramener... On va déjà avoir un peu plus de croquant, un peu plus de mâche, et on se rapproche plus d'un légume vert, déjà. Donc, ça, on va le cuisiner différemment. Donc, avec l'asperge blanche, on va éventuellement la cuire à l'eau ou éventuellement à la vapeur, encore mieux. Et l'asperge va juste se suffire à elle-même. Avec l'asperge verte, on a toujours ce goût, mais on va lui ramener un peu de matière grasse, un peu une belle noix de beurre noisette, un petit morceau de jambon, et on va la rôtir pour encore lui sublimer un peu ce goût de l'asperge. Mais ça sera deux goûts complètement différents.
Et de toute façon, ouais. On va parler cuisine juste après la madeleine de Natacha Triou. On va remercier Christophe Payeug d'avoir participé à cette émission. Christophe Payeug, qui est le président de la coopérative Copadax, hein, la première coopérative française de production d'asperges, asperges blanches, asperges violettes, à déguster sans modération. Merci à vous, Christophe Payeug.
À cette époque-ci, par exemple, il y a une chose ultra simple à faire, mais qui est un délice à l'état pur, c'est l'omelette aux pointes d'asperges. C'est une merveille.
Alors, Natacha, vous avez donc rencontré la Zazou de la chanson.
Oui, la Zazou Brigitte Fontaine. La grande dame de la chanson française est une icône de la musique contestataire des années 60 et elle a toujours de nombreuses actualités. Son nouveau livre, Paroles d'Évangile, vient de paraître aux éditions du Tripode. Elle sera en concert au Café de la Danse à Paris le 17 juin et elle sera le 3 juillet dans les salles obscures avec Oh les filles, un documentaire de François Armanet sur le féminisme dans le rock. En chantant en 1988, Moi aussi, je veux du nougat, on pouvait s'imaginer qu'elle nous parlerait de sucreries, sauf que Brigitte Fontaine n'est jamais là où on l'attend.
Quand j'étais petite, je lisais des romans policiers. Dès que j'arrivais du collège ou du lycée, je fermais tous les volets, j'allumais des bougies, je fumais des clopes que je chourais à ma maman et je lisais des polars. Et les gens, ils buvaient toujours du whisky. Ah, je trouvais ça très chic. Alors, la nuit, j'allais et je fauchais du whisky à mon papa. Je me propulsais dans le lit clos. C'est un truc breton, très beau. Et alors, c'est là qu'il y avait les liqueurs et les machins. Et alors, je me versais un petit coup de whisky. J'avais horreur de ça. Mais j'ai encore l'odeur dans les narines, les naseaux et une espèce de rudesse et d'agressivité, d'agression, une agression, mais en même temps comme un parfum très chic. Colette disait que ça sentait la punaise écrasée, mais comme j'ai jamais senti de punaise écrasée, je ne peux pas opiner. Bah maintenant, je ne peux plus supporter le whisky, ni le champagne, ni les alcools. Je n'aime plus les alcools.
Il ouvre la porte et me dit, assieds-toi, donne-moi du nougat. Assieds-toi, donne-moi du nougat.
Toujours eu horreur du nougat. Horreur. Alors, il y avait plein de gens qui m'offraient du nougat, du temps du nougat. Et je déteste. À un moment, il n'y a pas longtemps, je me nourrissais sans cesse, uniquement presque, de religieuse au chocolat. J'adore. Et c'est pas bon. Pour l'estomac.
Moi aussi je veux du nougat. Moi aussi je veux du nougat. Moi aussi je veux du nougat. Moi aussi je veux du nougat.
Inénarrable, Brigitte Fontaine. Le whisky, le nougat, la religieuse au chocolat, ça rime presque. Et l'asperge, donc. Peut-être est-ce pour cette raison, parce que c'était une madeleine pour vous, Sylvain Erard, producteur d'asperges à Sénas dans les IP du domaine de Roque Haute. Peut-être est-ce pour cette raison que vous êtes venu à l'asperge? C'est une madeleine, l'asperge, pour vous?
C'est l'asperge est pour moi une passion avant d'être un travail. Et je dirais que c'est peut-être pour ça que oui, ça c'est oui, on peut dire que c'est une madeleine, oui. Oui.
Alors on parlait de la saison de l'asperge, qui est vraiment le produit de la saison par excellence. Il existe des asperges de contre-saison. Un documentaire en montre quelques exemples. Ce documentaire sera diffusé aujourd'hui même, ce soir, à 20h50 sur France 5. Il s'intitule « Asperge, l'or blanc du printemps ». Écoutez un très court extrait.
Un avocat, des fèves, auxquelles Corinne ajoute des asperges en bocal.
Des asperges vertes qui viennent de Saint-Éloi. Eh ben, je suis sacrément surprise.
Pourquoi ?
Elles sont importées de Chine. Alors ça ?
Vous pensiez qu'elles venaient d'où ?
Bah de France.
Ah ben voilà, elles pensaient qu'elles venaient de France, mais non, elles viennent de Chine. En 20 ans, la production française, nous dit ce documentaire, a diminué de moitié, concurrencée par la Chine et un autre pays, plus peut-être surprenant, le Pérou. Et à eux deux, la Chine et le Pérou, ils se partagent le leadership mondial, c'est-à-dire qu'ils exportent des asperges fraîches par avion, en bocal après qu'elles ont été désinfectées à l'acide peracétique et surgelées. Comment réagissez-vous à cela, Sylvain Erhardt, vous vous qui produisez vos asperges vertes, que vous cueillez même à la main, une par une.
Je suis allé voir sur place. Voilà.
C'est-à-dire en Chine, au Pérou ou...
Au Pérou. Ouais. Je suis allé au Pérou pour voir comment ça se passait, parce que voilà, ça pouvait être intéressant de comprendre. Et quand on voit les tailles d'exploitation où on a, l'exploitation que je suis allé visiter, elle faisait 1000 hectares d'un seul tenant dans lequel il y avait uniquement des asperges. Voilà, on est sur des tailles d'entreprises qui sont des énormes. C'est inimaginable, hein, quand on arrive là et qu'on voit ça, c'est inimaginable.
Mais est-ce que c'est de la moins bonne qualité que ce que vous faites ?
Est-ce que c'est de la moins bonne qualité ? Je dirais qu'on n'est pas du tout sur le même rapport à ce qu'on peut avoir. Moi, j'ai 5 hectares, je pense pas qu'on ait le même rapport quand on travaille à 5 hectares que quand on en travaille 1000. Après, c'est une qualité qui est différente. Ce sont des clients aussi qui sont différents. Moi, je suis tourné vraiment vers l'excellence. Eux sont tournés plus vers la conserve, vers des marchés qui sont complètement différents. C'est vraiment pas comparable.
Et avec vos 5 hectares, Sylvain Erhard, vous cueillez donc à la main chacune de vos asperges qui doit faire 20 cm avant, minimum, avant que vous puissiez la cueillir. Je crois que on cueille l'asperge avec un outil qui s'appelle la gouge, c'est ça?
Alors, sur l'asperge blanche, oui. Sur l'asperge verte, non. Je récolte l'asperge avec un outil que mes salariés marocains me ramènent du Maroc et que je bricole, que je coupe en deux. Enfin, ce sont des anciennes fossiles dont ils se servaient à récolter le blé au Maroc. Voilà, c'est les petites histoires de partage qu'il peut y avoir entre nous. Et chaque année, ils me ramènent ça quand ils reviennent pour la saison. Ils me ramènent une quinzaine de ces fossiles qui permettent de récolter les asperges pendant toute la saison.
Alors Pierre Sogrin, il ne faut négliger ni la cueillette, ni déjà la façon dont elle pousse, hein, bien sûr, ni la cueillette, ni l'épluchage, ni la cuisson. Parlons donc un peu de vos astuces et de vos secrets. Déjà, est-ce qu'on les rince avant de les éplucher, avant de les cuire ?
Oh ben moi, je préfère toujours les rincer un petit peu, déjà les
Ils
nettoyer.
Ils sont pleines de terre, quand même.
Un petit peu, oui, il faut les rincer toujours un petit peu. Et puis après, il faut les éplucher délicatement. Hein. Ben, vraiment, moi, je les pose à plat sur une table et j'ai découvert un petit économe qu'on trouve un peu partout. On appelle ça des fois l'économe un peu à tomate. Ça ressemble un peu à un rasoir avec une lame qui bouge comme un rasoir. Et en fin de compte, on pose ça dessus et voilà, on arrive à avoir une asperge qui est épluché d'une seule fois et on enlève exactement ce qu'il faut comme peau et on lui garde ce côté cylindrique. C'est pas agréable d'avoir une asperge qui soit plate ou carrée.
Et comment la cuit-on pour vous?
Alors pour l'asperge blanche, moi je préconise la vapeur, garder toutes ces vitamines et tous ces nutriments, hein, je trouve que c'est mieux. Après sinon on peut la cuire dans l'eau, hein, en la bottelant et en la cuisant dans une eau bouillante salée. Voilà. Alors si on peut, si on a un ustensile assez haut, de les cuire debout. C'est-à-dire que les pointes vers le haut et la queue vers le bas, la chaleur étant plus en bas et la queue étant un peu plus résistante, pour avoir une cuisson plus uniforme de la pointe jusqu'à la queue pour pouvoir tout manger.
Vous êtes d'accord, Sylvain Erhard, avec cette cuisson?
Oui, sur la blanche, oui, vapeur ou à l'eau. Par contre, surtout pas sur la verte, comme le disait le chef tout à l'heure. C'est, voilà, faire cuire une asperge verte à l'eau, c'est pour moi presque un crime.
Oui, alors, elle doit être dans une poêle.
Oui, il faut la retirer tout doucement, débarrer avec une petite huile d'olive, la laisser retirer avec un petit peu de beurre, la garder croquante, sa couleur verte va ressortir, on va ressortir les saveurs, c'est très bien.
Elles doivent être croquantes quand elles sont blanches aussi, Pierre Sogrin ?
Non. Pour moi,
il faut la manger fondante, la blanche.
Il faut la manger fondante, la blanche. Alors, faut pas qu'elle soit trop cuite non plus, qu'elle tombe. Hein. On va la servir dans un restaurant, par exemple, dans une belle assiette avec une petite sauce mousseline. Puis après, on peut la manger à la maison, à la main. Vous savez, on met un petit bouchon sous l'assiette, on lève l'assiette, on trempe notre asperge dans la vinaigrette, et puis voilà.
Vous avez une astuce du chef, vous frottez, je crois, les asperges
Oui. Alors, moi, notamment pour la blanche, puisque j'achète le plus souvent, je prends 3-4 asperges dans ma main et je les roule les unes sur les autres. Et j'ai remarqué que plus elles crissaient, plus il y a un petit bruit, un crissement autour. Et plus elles sont fraîches, elles sont juteuses à l'intérieur. Voilà. Quand vous les frottez les unes aux autres et qu'il n'y a plus trop de bruit, il n'y a pas le petit crissement autour, voilà, c'est qu'elles ont déjà quelques jours de voyage et ça, c'est pas bien.
Bon, on arrive à la fin de cette émission sur l'asperge et je voudrais pas qu'on se quitte sans échanger quelques recettes. Alors, pas à moi, bien sûr, mais vous deux, si vous le voulez bien, Sylvain Erhard et Pierre Sogrin. Peut-être des recettes simples. Alors, c'est sûr qu'on a l'habitude de la manger avec une simple vinaigrette. Peut-être pas ça, la vinaigrette, ça. On est tous à même de le faire. Plus élaboré que ça.
Oui.
On commence avec vous, Sylvain Erhard. Qu'est-ce que vous nous conseillez?
Alors, moi, j'aime bien l'association avec les agrumes. asperges vertes souvent ça m'arrive de les déglacer au citron, les faire cuire à l'huile d'olive, les rouler à feu moyen pour éviter de les agresser. Et juste à la fin, avec un trait de citron, c'est vrai que ça amène un goût que j'aime bien.
Et vous, Pierre Segrin, qu'est-ce que vous me conseillez?
Alors moi, je vais avoir deux petites recettes rapides. C'est la saison aussi également, on a parlé d'asperges, mais de la morille. Alors l'asperge verte aussi, rôtie au beurre, m'a dit monsieur, et juste quelques petites morilles rôties dans un jus de veau. Ça va très bien aller avec l'asperge. Et j'aime bien aussi une petite recette où je l'enveloppe, je la fais rôtir aussi, et je l'enveloppe dans une tranche de jambon de pays, et ensuite dans une feuille de filo, et on la refait rôtir dans une poêle. On va amener un côté croustillant et salé du jambon, avec le fondant de l'asperge qui vient d'être cuite, c'est extraordinaire.
Extraordinaire. Merci beaucoup à tous les deux, mais surtout restez avec nous pour écouter la chronique La cerise sur le gâteau. Pierre Hiverna, donc, de quoi allez-vous nous parler?
Ben, je vais peut-être commencer par une quatrième recette d'asperges, puisqu'on en est là. Alors, mettez-vous-la bien en bouche, dans votre tête en tout cas, asperge verte, anguille fumée et réglisse. Pas mal, non? Alors, ces asperges vertes dont je vous parle et que tout le monde s'arrache, elles viennent de chez Madame Gustin, qui aurait pu être votre invitée, Caroline.
Bien sûr, aussi.
Si elle
que...
n'habitait à quelques encablures de San Un de Gimbre, qui est un chef qui les cuisine et que je mets très haut dans la hiérarchie de ceux qui font sérieusement bouger la gastronomie. Et pour trouver ces deux lascars, mieux vaut avoir une appli GPS de dernière génération. De celle à qui vous faites une confiance absolue quand elle vous demande de tourner à droite dans une route boueuse, puis à gauche vers une voie sans issue au fin fond de la Wallonie, pas très loin de Namur, à la recherche de l'air du temps. C'est le nom du restaurant. S'installer là relève a priori du suicide économique garanti, si ce n'était la volonté et l'énergie de ce bonhomme tout mince, discret et hors norme, et dont le regard vous découpe en morceaux, à l'instar de la précision millimétrée de sa cuisine. Entre des questionnements sur l'inné, l'acquis et une identité coréenne et ou wallonne, son parcours dévoile un artiste qui semble avoir toujours connu son destin sans jamais varier de cap. Un prénom, San Un, parce que né à Miliang, en Corée du Sud, et un nom, De Gimbre, parce qu'adopté par une famille belge. Le gars est passé d'une friterie en bord de route vaguement arrangée en restaurant à un 2 étoiles Michelin en moins de 8 ans. Et ce, notamment grâce à une rencontre du deuxième type, en la personne d'un autre personnage hors norme, Benoît Blervac. Lui, il a passé de nombreuses années à cultiver des euros grâce à son métier de banquier avant de devenir jardinier et de gérer le gigantesque jardin de l'air du temps où sont cultivées plus de 400 variétés de légumes et d'herbes en permaculture, fournissant près de 80% des produits cuisinés au restaurant.
Et il se trouve qu'à l'air du temps, il y a aussi une cave étonnante qui vous a particulièrement plu, Pierre.
Absolument, Caroline, parce que dans cette cave, c'est une bâtisse qui est une ancienne ferme en grosse pierre et dans cette cave, on trouve des jarres qu'on appelle onji. Elles viennent de Corée et elles sont bien connues en Corée pour faire le kimchi. Et elles font environ 1 mètre de haut et leur terre offre une certaine porosité permettant de conserver une vie bactériologique à l'intérieur. Et San Un de Gimbre et Benoît Blervac en ont une 20aine à demi enterrées et ont décidé une bonne fois pour toutes que absolument tout pouvait être fermenté. Alors c'est vrai qu'à l'air du temps, on se fout un peu des saisons, parce que la tomate cultivée par Benoît, si elle était bonne en été, elle sera délicieuse fermentée en hiver. Et les asperges de Madame Gustin, alors me direz-vous? Eh bien, elles y passent aussi, mais en quantité limitée. Car San, qui ne se déplace jamais sans une pince à épiler accrochée à sa veste, gère au millimètre le réglage du mélange entre ses cultures coréennes et wallonnes, et que l'asperge version l'air du temps avec anguille et réglisse, c'est tout de suite, maintenant et nulle part ailleurs.
Et les asperges se conservent bien quand on les met dans un torchon humide en bas du frigo, et le chef approuve ce que je dis. Merci beaucoup Pierre Hiverna pour cette chronique. Un grand merci à nos deux invités du jour. C'est la fin de cette émission. Les bonnes choses se poursuivent en réécoute et en podcast sur le site de France Culture. Toute l'équipe, Aïgoui, Chichkoyan, Stéphanie Villeneuve, Natacha Triou, Jean-Christophe Francis et notre technicien du jour, Pierrick Monsigny, vous souhaite un excellent dimanche à l'écoute de France Culture, une bonne dégustation d'asperges. Dans un instant, c'est le journal, suivi de Signes des Temps par Marc Weisman.